Les cinéphiles.
Bonsoir, la voix change quelque peu, mais le principe reste le même. On parle cinéma jusqu'à 19h. On va faire le tour des sorties de la semaine, les films à ne pas rater et ceux peut-être un peu plus à éviter. Après le flash de 18h30, critique du film Vice, actuellement en salle, long métrage d'Adam McKay avec Christian Bale, Amy Adams et Steve Carell, qui dresse le portrait féroce de Dick Cheney, politicien américain, vice-président des États-Unis dans l'administration du président George W. Bush. À 18h45, on jouera un extrait de film à reconnaître. Si vous y parvenez et que vous nous appelez, vous gagnerez des billets de cinéma valables dans toutes les salles Cinémon, Cinépel et Cinévital. Et finalement, retour sur le film Nikita de Luc Besson, sorti en 1990. Ce sera grâce à la bande originale de Sandra. Sandra, à qui je laisse directement la parole pour les sorties de la semaine. Elle est en compagnie de Raphaël Chevalet.
Les cinéphiles, les sorties.
Raphaël Chevalet est avec nous ce soir pour parler des sorties de la semaine. Raphaël, bonsoir.
Bonsoir Sandra.
Grâce à Dieu s'inspire de faits réels et raconte le calvaire de jeunes victimes de pédophilie devenues grandes qui découvrent que l'abuseur, le père Prenat, officie toujours comme représentant ecclésiastique.
C'est un film absolument prenant. C'est le nouveau film de François Ozon. Donc c'est un grand réalisateur. Hein. On se souvient du succès de 8 femmes il y a très longtemps, mais il a aussi fait Jeune et Jolie plus récemment, L'amant double, etc. Et là, il s'est vraiment inspiré d'une affaire qui est toujours en cours, hein, et on est en attente du verdict. Donc le film s'inspire vraiment d'une affaire qui fait grand bruit en ce moment. Et puis, la réussite de François Ozon, c'est d'avoir, à partir des témoignages des victimes, de raconter vraiment, d'aller dans tous les détails des traumatismes et aussi dans l'église, à l'intérieur de l'église, pour montrer comment l'église est d'une part puissante, comment elle a couvert ses agissements. François Ozon a une mise en scène très sobre. Il va aussi s'insinuer dans les familles. C'est vraiment un film très prenant et révoltant du début à la fin. C'est vraiment un film à voir de toute urgence. C'est vraiment le film de la semaine.
Cette semaine au cinéma également, une Glenn Close éblouissante en femme humiliée. Une Glenn Close magistrale dans The Wife, le dernier long métrage de Bjørn Runge qui sort mercredi.
Oui, c'est une femme d'écrivain l'écrivain américain qui va recevoir un prix Nobel, et donc ils embarquent ensemble direction Stockholm. Puis petit à petit, il y a un biographe qui tourne autour d'eux et qui veut essayer de s'insinuer dans leur quotidien pour débusquer un peu leurs secrets. Il ne faut pas en dire plus pour ne pas spoiler le film, mais c'est vraiment un film, disons, féministe qui révèle du point de vue de l'épouse, tout d'abord en flashback, le coup de foudre, la passion, la complicité, le mariage, etc. Et puis ensuite, le retournement de situation, le dégoût, la jalousie, la rancœur de cette femme qui vraiment va ressentir une vraie répulsion pour son mari. C'est un film féministe qui procède par inversion des rôles. C'est très intéressant, c'est très bien joué, évidemment, avec Glenn Close et puis Jonathan Pryce dans le rôle de l'écrivain.
On a déjà parlé de Vice la semaine passée. On en reparle cette semaine puisqu'il sera diffusé en région suisse alémanique.
Oui, Vice d'Adam McKay. Adam McKay, c'est un ancien complice de Michael Moore. Hein. Maintenant, il s'illustre avec des comédies féroces. Il avait fait notamment The Big Short avec cette bande d'opportunistes qui avait gagné des millions en pariant contre l'économie américaine lors de la crise des subprimes. Là, dans Vice, il va suivre le parcours de Dick Cheney. Donc Dick Cheney, ancien fin connaisseur des coulisses de la politique américaine, ancien secrétaire d'État à la Défense, qui a été cabinet à la Maison-Blanche. Et là, dans le film, on va voir comment il va réussir à se tailler un poste de vice-président au plein pouvoir grâce à Bush Junior. C'est vraiment une comédie, une satire très mordante, avec beaucoup d'ironie, ça vaut vraiment le détour.
Un film animalier cette semaine sur les écrans de Suisse romande, c'est l'histoire d'Ailo, une odyssée en Laponie.
Oui, racontée par le chanteur Aldebert. Alors moi je ne connaissais pas, vous connaissez le chanteur Aldebert?
Ah oui, bien sûr.
Mes enfants et moi, on ne connaissait pas Aldebert. Et là, on a trouvé assez génial la façon dont il raconte cette histoire d'un petit renne qui naît en Laponie. Hein. Depuis ça commence à sa naissance, il a juste 5 minutes pour apprendre à marcher et suivre sa maman et puis le troupeau. Et puis il va affronter tous les dangers de la nature. C'est vraiment un film qui fait rêver en plein cœur de la nature, à voir avec toute la famille.
Omar Sy, Reda Kateb, Mathieu Kassovitch et François Civil sont sous la houlette d'Antonin Baudry pour un film très attendu, Le Chant du Loup.
Oui, c'est un film de sous-marin qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui a des dons particuliers, qui a une oreille vraiment en or, et qui va se retrouver dans un sous-marin, sous l'eau, d'un sous-marin nucléaire, pour vraiment résoudre des problèmes gravissimes, faut pas en dire trop. Donc c'est le deuxième film de sous-marin de l'année, hein. Il y a déjà eu Kursk, et puis c'est un genre en soi, un sous-genre, que moi j'apprécie en particulièrement.
Merci beaucoup Raphaël, à la semaine prochaine.
Merci Sandra, au revoir.
Les cinéphiles, la critique.
Vice par Adam McKay, l'un des films événements de ce début d'année, nominé 8 fois aux Oscars, Oscar dont la 91e cérémonie de remise a lieu cette fin de semaine, le 24 février. Et le film a déjà glané 14 récompenses, dont un Golden Globe pour Christian Bale, magistral dans l'interprétation de Dick Cheney. Car c'est de ça dont il s'agit. Vice est un biopic, un portrait féroce, véritable pamphlet dirigé contre Dick Cheney, politicien américain, vice-président des États-Unis dans l'administration George W. Bush de 2001 à 2009. L'histoire d'un homme qui a conquis l'Amérique sans faire aucun bruit, qui a été l'un des rouages essentiels de l'administration Bush, celle qui s'est servie des attentats du 11 septembre pour redonner à l'Amérique son visage guerrier, faire passer Saddam Hussein pour le grand méchant et envahir l'Irak. 2h12 de pellicule pour revivre l'irrésistible ascension de Dick Cheney, chef de cabinet dans l'administration du président Ford, secrétaire de la défense sous George Bush père, et puis vice-président du fils de ce dernier, George Bush Jr.
Je veux que tu sois mon VP. C'est toi que je veux. T'es mon second.
Eh bien, George, je suis... Je suis le PDG d'une multinationale. J'ai été secrétaire à la Défense. J'ai aussi été chef de cabinet de la Maison-Blanche. La vice-présidence n'est rien de plus qu'un titre symbolique, selon moi. Hein? Mais on peut peut-être s'entendre pour... En revoir. La définition. Je pourrais m'occuper des dossiers moins attrayants. Du terre-à-terre. Comme superviser la bureaucratie. L'armée, l'énergie et la politique étrangère.
Ouais, bonne idée.
Adam McKay dresse le portrait d'un homme avide de pouvoir qui a su jouer des codes et des législations pour devenir le vice-président le plus puissant des États-Unis, jusqu'à par moments faire passer le président Bush pour une simple marionnette. Et malgré le ton lourd et la véracité du propos, McKay signe une comédie virevoltante, douce amère. Il use de tous les procédés possibles, situations bouffonnes, dérisions ou dialogues absurdes. Un film donc hors genre, porté par un casting 5 étoiles. L'incroyable Christian Bale d'abord, le Britannique justifie plus que jamais sa réputation de caméléon d'Hollywood. On va en reparler d'ici quelques instants, puisqu'il est le sujet de notre coup de projecteur. Et puis à ses côtés, Amy Adams dans le rôle de sa femme, ferme, ambitieuse et tout aussi avide de pouvoir que son vice-président de mari, Steve Carell interprétant un Donald Rumsfeld à la fois absurde et terriblement cynique, et Sam Rockwell portraiturant un George W. Bush plus vrai que nature. On l'a dit et on le répète ici, Vice est clairement l'un des films événements de ce début d'année.
Les cinéphiles. Coup de projecteur.
Et un coup de projecteur sur l'acteur principal de Vice, Christian Bale. Le Britannique assure une prestation magistrale, déjà récompensé d'un Golden Globe du meilleur acteur, et une prestation qui lui vaut également une nomination aux Oscars, également pour meilleur acteur. Le Britannique justifie plus que jamais sa réputation de caméléon d'Hollywood, capable, comme peu, si ce n'est personne, de modifier son apparence physique au gré et aux besoins de ses rôles. Le grand public a découvert Bale en 2000, dans American Psycho. Il incarnait le rôle de Patrick Bateman, homme d'affaires new-yorkais et tueur en série à ses heures perdues. Bale est alors au sommet de sa forme, 81 kilos de muscles. 4 ans plus tard, on le retrouve dans le rôle de Trevor Resnick dans The Machinist et pour le besoin du film, il perd 28 kilos et n'en pèse alors plus que 55. L'année d'après, il campe Bruce Wayne, a.k.a. The Batman, dans le Batman Begins de Christopher Nolan. Il reprend alors 31 kilos et redevient une montagne de muscles. On s'arrête là ? Non. En 2006, Bale retombe à 66 kilos pour jouer Dieter Dengler, pilote de la Navy, fait prisonnier durant la guerre du Vietnam. C'est dans le film Rescue Dawn. On le retrouve le visage bouffi dans American Bluff de David O. Russell en 2013 pour un poids d'environ 90 kilos. Retour à son poids de forme dans The Big Short d'Adam McKay en 2015. avant donc de reprendre 25 kilos pour interpréter Dick Cheney dans Vice, un Dick Cheney bien en chair, pas loin des 100 kilos. Et si vous vous demandez comment fait-il pour perdre si facilement et si rapidement autant de poids, eh bien le régime de Christian Bale est plutôt simple, il l'avoue lui-même, salade, pommes, cigarettes et chewing-gum.
Jusqu'à 19h, les cinéphiles.
Et il est temps de jouer. Je vous passe un extrait de film, à vous de le reconnaître. Si c'est fait, vous m'appelez au 0901 70 20 20. 0901 70 20 20. Aujourd'hui, et c'est un film qui va fêter ses 20 ans cette année, puisqu'il est sorti le 30 mars 1999. Mais c'est un film, et je l'ai vu encore récemment, qui n'a pas pris une seule ride. C'est même assez fou de se dire à quel point il est encore dans l'air du temps. Écoutez bien, il y a 2-3 indices quand même qui vous permettra assez facilement de le reconnaître. Et dès que vous l'avez, vous m'appelez 0901 70 20 20. On joue pour des places de cinéma.
Les cinéphiles.
Rien de tout ça n'est réel.
Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui.
Alors, quel est ce film? Si vous le trouvez, vous remporterez une paire de billets pour la séance de votre choix dans les cinémas Cinémon, Cinépel et Cinévital. Quelqu'un est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Comment vous appelez-vous?
Nadège.
Est-ce que vous avez reconnu le film?
C'est Matrix.
C'est absolument Matrix, bravo Nadège.
Oh yes.
Vous l'avez reconnu facilement, rapidement?
Ah bah avec Neo, oui, évidemment.
Ah c'est le nom, parce qu'à un moment donné, il dit même la matrice. Donc c'était un petit peu facile, mais bon, je me suis dit, il fallait y aller quand même. C'est un film que vous aviez vu?
Oui, qu'on a en DVD et qu'on aime beaucoup.
Vous l'avez revu récemment?
Non, je dois avouer.
Parce que...
Mais du coup, on va le regarder.
Mais alors moi, je le conseille parce qu'on l'a dit, hein, c'est un film qui fête ses 20 ans cette année. Et vous verrez, c'est assez fou à quel point il reste pertinent aujourd'hui. On parle d'intelligence artificielle, de domination des machines sur l'homme. Et quand on voit d'autres films actuels, on se dit qu'ils avaient vraiment 10-15 ans d'avance. Là. Joli film.
Exactement. Bon, on pensera à vous en le regardant.
Bah, ça fait plaisir. Et du coup, des billets pour le cinéma. Vous avez un film déjà entouré là que vous avez envie d'aller voir actuellement en salle?
Oui, Dragon 3 avec ma petite.
Ah bah c'est chouette. C'est une belle journée, une belle soirée peut-être.
Bah oui, puis elle va être super contente.
Bah ça fait d'autant plus plaisir. Merci d'avoir joué avec nous. Félicitations Nadège.
Merci.
Et puis vous restez bien évidemment merci. Avec moi hors antenne que je puisse prendre vos coordonnées.
Pas de souci. Merci beaucoup.
Les cinéphiles.
J'ai le plaisir de remplacer Sandra ce soir à l'occasion de ses cinéphiles. Mais même lorsqu'elle n'est pas là physiquement en studio, elle n'est jamais très très loin, Sandra.
Les cinéphiles, bande originale.
En 1988, on découvre par l'intermédiaire du film Le Grand Bleu, un réalisateur de génie, le français Luc Besson. Son savoir, son originalité font de lui dès lors un des plus grands metteurs en scène au monde. En 1990, il présente Nikita et fait sa première incursion dans le genre film d'action. Le film mettant en scène et remettant en scène l'actrice Anne Parillo est une réussite qui dépasse les 3 millions d'entrées dans les salles lors de sa sortie. Nommé à 9 reprises lors de la 16e cérémonie des Césars, il repart avec 4 statuettes dorées, dont celle de la meilleure musique de film. Dans Bande originale, on se penche ce matin sur cette performance musicale orchestrée d'une main de maître, celle d'Éric Serra, le même qui se chargea de la bande-son du Grand Bleu et qui fut le musicien attitré de Besson pour la majeure partie de ses films. Juste avant son arrestation pour le braquage d'une pharmacie, Cocotte abat froidement un policier. Elle est la seule rescapée de ce drame. Condamnée à perpétuité, elle finit en prison, mais le séjour est de courte durée. Des agents maquillent son suicide par injection afin de la transférer dans un centre des services secrets français. Pour bénéficier d'une nouvelle vie, son référent lui propose un contrat longue durée. Travailler pour eux comme agent spécial. Très spécial. Commence dès lors pour la jeune femme rebaptisée Nikita une série d'entraînements intensifs et laborieux étalés sur plusieurs années et suivis par Bob, incarné par le plus que séduisant Checky Cario. Maniement d'armes à feu, d'arts martiaux, combats au corps à corps ne sont pas les seuls exercices auxquels doit se plier l'agent. Elle doit également suivre des cours de civilité afin d'apprendre les bonnes manières et la bonne conduite. Pour le maquillage et les cours de féminité, c'est la grande Jeanne Moreau qui prend soin de Nikita et qui va faire de ce personnage souillon et sauvage une femme magnifiquement attirante et séduisante. Tellement séduisante que lors d'une de ses missions, le jeune Jean-Hugues Anglade va tomber sous le charme et lui offrir l'amour. Mais peut-on vivre à deux en dissimulant son identité et en passant le plus clair de son temps à tuer des gens et exécuter des missions de plus en plus dangereuses à l'insu de l'être qu'on aime ? Plus que le scénario, la musique a toute son importance dans Nikita. Elle figure en premier plan grâce à la magie du compositeur Eric Serra, récompensé au César pour la bande originale du Grand Bleu, une bande originale qui fut acclamée par la critique et qui fut pour plusieurs l'œuvre la plus accomplie du duo Besson-Serra. Fort de ce succès, ils remettent ça en 1990. La bande-son est comme pour la première, composée de versions instrumentales, sauf pour un titre. Dans Nikita, il est interprété par Serra. Même recette et mêmes ingrédients avec un soupçon d'expérience en plus. Des ingrédients que lui-même s'est dosé pour un duo qui fonctionne et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Et c'est tant mieux, comme ça, dans Bande Originale, on pourra encore vous en parler.
La redécouverte de Nikita, film de Luc Besson, c'était la bande originale de Sandra. Sandra que vous retrouverez lundi prochain à cette même place pour une émission qui risque d'être sous le signe de la cérémonie des Oscars, puisque la cérémonie se tiendra la veille, enfin la nuit précédente plutôt, avec le décalage horaire dans la nuit de dimanche 24 à lundi 25, cérémonie qui se tiendra du côté de Los Angeles bien évidemment. Je vous laisserai donc en sa compagnie pour tout ce qu'il faut savoir sur cette cérémonie, les gagnants, les perdants et surtout les films qui sont certainement intéressants à aller voir. C'est la fin pour les cinéphiles. Vous retrouvez bien évidemment cette émission en podcast, en réécoute sur notre site internet. Je vous souhaite une très belle soirée et vive le cinéma.